vie, sur le monde, sur ta gloire. Et je veux prier maintenant pour Eduardo qui va nous apporter ta parole. Que ta main et ton esprit reposent sur lui, qu'il puisse...
Amen. Bon, mais merci beaucoup. Bonne journée à tous. Vous pourrez peut-être apprendre une minute pour nous lever, peut-être à dire bonjour à quelqu'un à qui on n'a pas dit bonjour aujourd'hui et passer 30 secondes à l'encourager pour d'être venu ce matin à l'église. Je connais quelques-uns d'entre vous parce qu'on a fait la formation biblique Alliance ça m'a donné l'opportunité de connaître quelques-uns d'entre vous. Donc, bonjour. Je suis venu avec ma femme, Escarly, elle est chilienne, et notre fils Mathias, qui a 2 mois. C'est la première fois qu'il vient à l'église aujourd'hui, donc c'est les chemins du Seigneur. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment une joie d'être ici ce matin, d'apporter la parole. J'ai compris, en fait, que vous êtes sur une série qui s'appelle « Le serviteur souffrant ». Moi, je resterai au maximum d'être attaché à ces passages, à cet enseignement, voilà, pour comprendre tout ce que le Seigneur il a fait. J'ai compris, en fait, qu'on avait 1h30 pour la prédication. Donc, moi, je pense qu'avant 14h, on sera parti. Voilà. Voilà. Donc, si je déborde un petit peu, vous serez patient envers moi. Voilà. Donc, j'ai appris énormément de choses avec ces passages. Je suis ravi d'avoir eu la possibilité de préparer ces passages et l'étudier parce que j'ai appris énormément de choses, des choses que je n'avais pas vues auparavant. Et c'est juste merveilleux. En fait, je ne comprenais pas à quel point j'avais survolé ces passages et je ne les savais pas analyser en détail, comprendre toute la richesse du texte. Et c'est énorme. Le texte que l'on va étudier aujourd'hui, c'est le Marc. C'est le passage le plus court, en fait, qui présente le jugement que Jésus auquel il a fait face à Pilate. Mais bon, il y a d'autres passages dans le livre des Jean, de Luc et de Matthieu qui sont assez riches. L'évangile de Luc, il est assez riche dans cet enseignement. Il y a beaucoup plus de détails. Donc voilà, je fais l'étude en me basant sur les 4 évangiles. Donc j'ai des choses qui ne sont pas dans les textes, mais qui sont dans d'autres évangiles. Voilà. Et j'ai passé beaucoup de temps dans la prière et la méditation pour étudier ces passages. Et voilà, je vais essayer de vous transmettre ce que j'ai appris, ce que le Seigneur, dans sa grâce, m'a permis d'observer et de comprendre dans ces passages. Donc, tout a commencé dans le chapitre 14. Aujourd'hui, on va étudier le chapitre 15, Marc 15, du verset 1 au verset 20. Mais tout commence dans le chapitre 14, où Jésus il est ramené vers les Sanhédrins. Il a été trahi par Judas. Et il le ramène pour suivre un jugement. Et il y a des faux témoins qui se sont présentés, mais ils n'arrivaient pas à rendre Jésus coupable. Donc, ils essayaient par tous les moyens, des milliers d'accusations. Et voilà, et ça ne marchait pas. Jusqu'à ce que le grand prêtre pose la question à Jésus et lui dise, « Mais dis-nous, est-ce que c'est toi le Le grand prêtre l'interroge de nouveau et lui dit « Es-tu le Messie, le Fils des dieux, béni ?» Jésus répondit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin des témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous ? » Et tous les condamnèrent, déclarant qu'il méritait la mort. Donc le Sanhédrin, il avait déjà trouvé l'excuse parfaite pour tuer Jésus. Mais un truc qui m'a vraiment surpris dans ces passages, c'est que c'est le Seigneur qui leur a donné la possibilité de le juger. Parce que quand ils ont essayé de le juger, il n'y avait aucune accusation qui restait debout. Et c'est le Seigneur qui leur a permis de faire ça. Il leur a donné la possibilité de le ramener, de le rendre coupable. Et là, en fait, il déclarait que Jésus méritait la mort. mais ils n'avaient pas le droit de tuer des gens parce qu'ils étaient occupés par les Romains. C'était une colonie, donc ils n'avaient pas le droit d'exécuter un jugement, de tuer quelqu'un, parce qu'ils n'avaient pas l'autorité. Donc c'est pour ça qu'ils devaient se rendre devant les autorités romaines pour que Jésus soit jugé et soit mis à mort. Donc c'est là où on passe à la lecture de l'évangile du Marc 15, du verset 1 au verset 20.
Donc je vais lire Marc 15, les versets 1 à 20. Ce n'est pas affiché, mais vous avez les Bibles. Dès le matin, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les anciens, les spécialistes de la loi et tout le Sanhédrin. Après avoir attaché Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit : « Tu le dis. » Les chefs des prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Pilate l'interrogea de nouveau : « Ne réponds-tu rien ? Vois-tu tous ces témoignages qu'ils portent contre toi ?» Mais Jésus ne répondit plus rien, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Il y avait en prison le dénommé Barabbas, avec ses complices, pour un meurtre qu'ils avaient commis lors d'une émeute. La foule se mit à demander à grands cris ce qu'il avait l'habitude de leur accorder. Pilate leur répondit : « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» En effet, il savait que c'était par jalousie que les chefs des prêtres avaient fait arrêter Jésus. Cependant, les chefs des prêtres excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit la parole et leur dit : « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau : « Crucifie-le ! » Quel mal a-t-il fait ?» leur dit Pilate. Ils crièrent encore plus fort : « Crucifie-le !» Voulant satisfaire la foule, Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Les soldats conduisirent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils rassemblèrent toute la troupe. Ils lui mirent un habit pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappèrent la tête avec un roseau, crachaient sur lui et se mettaient à genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être moqués de lui, ils lui enlevèrent l'habit rouge, l'habit pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier.
On voit ici que le Seigneur il fait face à une nouvelle accusation. Donc, dans les chapitres 14, il fait face à une accusation religieuse. Et ici, il fait face à une accusation politique. Donc, c'est une nouvelle accusation et on l'accuse de sédition, de se rendre rebelle face à l'Empire romain. Dans l'évangile de Luc, on l'accuse d'être un révolutionnaire, de s'être proclamé roi dans un territoire où le seul roi reconnu était César. On l'accuse également d'inciter les peuples à se soulever contre les Romains, de promouvoir la désobéissance civile en refusant de payer les impôts et de s'opposer au gouvernement établi. Donc, ça, l'accusation de sédition, c'est une accusation grave et sévère, en fait, que les Romains, ils ne prenaient pas à la légère. À chaque fois qu'une personne s'est soulevée contre le gouvernement romain, il s'agissait avec une force de frappe énorme. Voilà, ils ne pouvaient pas se permettre qu'il y ait des petits groupes ou des personnes qui se soulèvent contre le gouvernement établi. Donc, devant les Juifs, un jugement religieux pour blasphème, et devant les Romains ou devant Pilate, un jugement politique pour sédition. Voilà, c'est la différence. Pourquoi ? Parce que pourquoi ils n'ont pas continué avec la même accusation qu'ils ont portée contre Jésus dans les chapitres 14 ? Parce que s'ils s'étaient présentés devant les Romains avec la même accusation, c'est-à-dire le blasphème, moi, je pense que les Romains, ils auraient écarté très vite l'affaire. Ils auraient complètement oublié ou classé sans suite parce qu'ils s'en fichaient complètement des croyances des peuples auxquels ils s'occupaient. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient les chefs religieux, ils avaient besoin d'un chef d'accusation fort qui permettrait de tuer Jésus et de l'écarter et de le sortir du chemin. Et seulement Rome avait la possibilité de mettre à mort quelqu'un, de déclarer la peine de mort à quelqu'un. Donc, comme on sait, eux qui gouvernaient la province, ils ont dû se présenter devant les Romains pour, avec cette accusation pour faire taire Jésus. Quand on a lu le texte, on voyait en fait que les personnes qui se sont présentées devant Pilate accusaient Jésus avec véhémence. Voilà. Ils insistaient, ils disaient des mots, ils l'accusaient d'énormément de choses, etc. Mais ils ne cessaient pas de prononcer des accusations contre Jésus. Et malgré ça, le Seigneur, il ne disait rien. Il ne disait absolument rien. Il ne se défendait pas. Et c'est assez curieux parce que on a hérité beaucoup de choses du droit romain. Et une des choses que les gens, ils avaient le droit, c'était ils pouvaient se défendre. Donc, quand il y avait une accusation, quand on présentait une accusation à quelqu'un, voilà, on présentait le chef d'accusation, la personne avait la possibilité de se défendre, de dire non, voilà, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, je les ai exposés pendant mon ministère, j'ai montré leur hypocrisie, en fait, les abus qu'ils faisaient vivre au peuple, etc. Et ils ne respectaient pas vraiment la loi, ils avaient changé la loi, les croyances, etc., pour les rendre à leur avantage. Et c'est pour ça qu'ils veulent me tuer aujourd'hui. Donc, ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. Et ça aurait été la vérité. Au moins, il y aurait eu un moment d'échange. Mais le Seigneur, il n'a rien dit. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment surpris Pilate. Voilà. Et on pourrait se dire à ce moment-là, mais Seigneur, pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu ne te défends pas? Pourquoi tu permets en fait que les gens prononcent des fausses accusations contre toi? Seigneur, tu ne te rends pas compte que les méchants sont en train de gagner? Seigneur, tu ne te rends pas compte qu'ils vont te tuer? Et ce sont des questions que quand on commence à étudier les textes, à plonger dedans, on va se dire, mais pourquoi Seigneur, tu restes, tu permets qu'en fait, ils disent des choses qui ne sont pas vraies à ton encontre? Pourquoi tu ne dis absolument rien? Pourquoi tu ne te défends pas? Les accusations des Juifs, elles n'étaient pas insignifiantes. Ils avaient une valeur extrêmement forte, comme je l'ai dit auparavant, devant les Romains. Ils n'allaient pas traiter ça à la légère. Ils devaient vraiment analyser cette situation. Et si le Seigneur était coupable, ils devraient le tuer. Parce que c'est ce qu'ils faisaient dans ces genres de situations. Il y avait des choses aussi, quand on regarde l'histoire, c'est qu'à cette époque-là, il y avait des groupes qui se soulevaient contre les status quo, contre les Romains, contre l'Empire qui avait été, contre le gouvernement établi, parce qu'il y avait beaucoup d'abus de la part des Romains vis-à-vis des peuples auxquels ils s'occupaient. Donc il y avait des groupes qui se battaient contre les Romains. Et eux, ils ne pouvaient pas permettre que ce genre de choses arrivent. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis la croix, voilà, parce que c'est là le prix que les gens devaient payer quand ils allaient à l'encontre du peuple romain, des gouvernements romains. Mais quand on lit également les textes, on se rend compte que Pilate, il était surpris dès que Jésus ne se défende pas de sa réaction, ou qu'il ne fasse absolument rien, qu'il permette en fait que les gens l'accusent. Donc lui, il commence à analyser la situation. Et quand on regarde les textes, encore une fois, quand on l'étudie, quand on plonge dans l'histoire de l'époque, on se rend compte que Pilate, c'était un grand chef. Donc lui, c'était quelqu'un d'intelligent, il était quelqu'un de cultivé, quelqu'un qui pouvait analyser ce genre de situations. Et il connaissait la situation. Parce qu'imaginez-vous, c'est le responsable à ce moment-là. Et lui, il savait, il avait des informations en fait, sur ce qui s'est passé dans cette époque-là. Il regardait les gens, il suivait les informations, les soldats romains. Il marchait dans la ville, il patrouillait la ville, il voyait tout ce qui s'est passé. Il savait des gens qui leur donnaient des informations sur ce qui était en train de se passer. Donc lui, il était au courant qui était Jésus. Jésus, ce n'était pas une personne inconnue à l'époque. Toutes les choses qu'il avait faites, le miracle, voilà, tout. Il a créé une espèce de boule là, en fait, énorme, avec beaucoup, beaucoup de choses que les gens se questionnaient sur qui était lui. Mais sur toutes les choses ou toutes les questions que je suis posées, n'a jamais été celle de la sédition. Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça. C'est pourquoi Pilate, il savait, il comprenait que les accusations qui étaient portées contre Jésus étaient complètement fausses. Et il avait une responsabilité d'analyser cette situation. Et quand on regarde le message que Jésus il transmettait, voilà, parce qu'il lui le connaissait, quand on regarde ce qui est marqué dans les évangiles, le message c'était « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Si ton frère pêche contre toi, pardonne-lui. Non pas seulement 7 fois, mais 70 fois 7. Si quelqu'un te force à faire une mille, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. » À cette époque-là, les soldats romains, ils avaient la possibilité de forcer quelqu'un. Ils transportaient quelque chose là. Il avait la possibilité de demander à n'importe qui de porter son fardeau là pendant une mille. Et ce que Jésus disait, non, mais en fait, si quelqu'un te dit ça, tu le ramènes 2 milles. Tu fais beaucoup plus de ce qui était demandé. Et quand les soldats, ils demandaient ça à quelqu'un, ils avaient l'habitude d'entendre des malédictions, des injures. Voilà, j'espère que tu vas mourir, que le Seigneur va te punir pour tout ce que tu fais. C'est ce qu'ils entendaient. Et quand ils étaient face à quelqu'un, un disciple de Jésus, ils le faisaient d'une bonne manière. Ils disaient non, ok, tu t'arrêtes là. Non, je t'inquiète pas, je vais l'apporter encore une mille de plus. Donc là, ça s'est créé un changement dans la pensée des gens. Ils challengeaient les gens. Parce que le message de Jésus, ce n'était pas un message de haine, c'est un message d'amour. Donc, il voulait faire un changement dans les pensées des gens, les changer et les faire penser d'une façon complètement différente. Et ces changements allaient durer, entrer beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus profonde que le jugement de la haine et de la rancœur. Et face à tout ça, quand Jésus il était face à Pilate dans ses jugements, il y avait également la pression sociale. Parce que la foule, elle s'est jetée contre Jésus, je dis avec les paroles, bien évidemment, pas physiquement, mais il voulait vraiment le tuer. Et on voit dans l'histoire, il y a eu plein d'exemples où les leaders, ils ont suivi ce que la foule demandait. Parce qu'ils n'ont pas eu le courage de faire face et de prendre des décisions justes. Dans la Bible, on voit l'exemple de Saül, le premier roi d'Israël, quand il a sacrifié voilà, à la place du prophète, parce que le prophète, il n'était pas là. Et voilà ce que ça crée, c'est qu'il a perdu le royaume. Donc il a pas eu le courage d'obéir et de faire ce qui était juste, ce qui lui était demandé. Il a cédé à la pression. Donc ici, on voit que Pilate, il commence à céder face à la foule, face à ce que les gens étaient en train de lui demander. Mais il a essayé, malgré ça, Pilate, il a essayé par tous les moyens de faire sortir Jésus, de le libérer. Parce qu'il sentait en fait que c'était faux, les accusations qu'il portait contre Jésus étaient complètement fausses. On voit également que dans un autre évangile, la femme de Pilate se rapproche de lui et dit « n'ai rien à voir avec cette personne-là parce que elle est juste. J'ai eu des rêves et s'il te plaît, ne juge pas cette personne, ne la condamne pas, ne la rende pas coupable. » Mais Pilate, il y avait la pression sociale. Quand on lit également l'histoire, il avait des problèmes avec le peuple d'Israël. Voilà, donc on n'a pas le temps de les aborder ici aujourd'hui, mais vous allez pouvoir les étudier. Vous allez voir en fait qu'il avait fait des choses méchantes, donc il avait une pression. Et le peuple, les leaders religieux, ils utilisaient des mots en fait pour le forcer à tuer Jésus, à rendre coupable Jésus. Voilà. Il a vu dans les coutumes juives la possibilité de rendre Jésus libre, de le libérer. Parce qu'il y avait, à cette époque-là, il y avait l'habitude, il y avait de libérer un prisonnier pendant la fête. Voilà. Donc Pilate, il a trouvé dans cette occasion, dans cette coutume, la possibilité de libérer Jésus. Mais en fait, on comprend bien que ce n'est pas, quand on étudie les livres d'histoire, etc., ce n'est pas une habitude romaine, des Romains. C'était une habitude des peuples juifs, des peuples d'Israël. Ils demandaient ça, ils demandaient aux leaders de libérer quelqu'un. Et les Romains, ils avaient la possibilité soit d'accepter, soit de refuser ça. Et là, il avait l'opportunité de libérer Jésus. Il a dit, vous voulez que je vous libère, le roi des Juifs? Mais la foule n'a pas voulu. Il disait, en fait, si Pilate relâchait Jésus, il ne serait plus ami de César. Et l'évangile de Jean, il rapporte qu'ils ont dit, quiconque s'est fait roi s'oppose à César. Donc, c'est une accusation très dangereuse pour un Romain. Ils ont su utiliser les mots pour mettre à la pression à Pilate et, voilà, et faire ce qu'il voulait. Les chefs religieux ont même crié, nous n'avons pas d'autre roi que César. Alors, c'est extrêmement fort ce qu'ils ont prononcé. Nous n'avons pas d'autre roi que César. C'est qui le roi d'Israël? C'est qui le roi? Exactement, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Et c'était quelque chose d'extrêmement fort dans leur culture, de dire notre roi, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel. Et là, il disait, nous n'avons pas d'autre roi que César. Pourquoi? Parce qu'il voulait vraiment mettre à la pression à Pilate pour qu'il tue Jésus, pour qu'il le rende coupable. Il fallait que ça s'efface le même jour parce que le lendemain, il savait le Shabbat. Et c'est assez curieux, en fait, de voir comment les gens, comment ces personnes-là, ils sont oubliés, ont mis de côté complètement leurs croyances juste pour que leur objectif soit atteint. Celui de rendre Jésus coupable et qu'il soit condamné à mort, qu'il soit mis à mort. Donc, ils voulaient à tout prix que le Seigneur soit retiré, soit qu'il meure. Et le peuple également n'a pas voulu que le Seigneur soit libéré. Pourquoi? Ils ont voulu, à cette époque-là, il y avait quand Pilate, il a demandé, est-ce que vous voulez que je vous libère quelqu'un? Que je vous libère le roi des Juifs? Ils ont dit non, libère-nous Barabbas. Et c'est encore curieux, en fait, quand j'étais en train d'étudier le passage, je dis, Bar, si, ça veut dire fils, et Abba, qu'est-ce que ça veut dire Abba? Donc c'est le fils du Père. Et c'était qui le fils du Père? Jésus, exactement. Donc le peuple, il a demandé que ce soit Barabbas qui soit libéré et ils ont condamné Jésus. Et qu'est-ce que je fais avec Jésus? Crucifie-le. Donc c'est assez riche le passage parce quand on commence à étudier l'analogie de l'évangile. Le Seigneur, nous avons pris la place du Seigneur et le Seigneur, il a pris notre place. Donc aujourd'hui, nous, on est Barabbas. Nous, on était coupables. Et grâce à son sacrifice, à tout ce qu'il a accompli, aujourd'hui, on peut prendre la place de Jésus et on peut se présenter devant le Père par le sacrifice de Jésus, grâce au sacrifice de Jésus. Donc, qui était Barabbas? Il était un assassin. On dit à cette époque-là, il y avait des révoltes, en fait, des luttes. Et on dit qu'on peut conclure en fait que Barabbas il a participé à une émeute, il a tué un ou plusieurs soldats. La Bible ne mentionne pas combien de personnes il a tué. Il dit que c'était un meurtrier. Et selon la loi romaine, il méritait la peine de mort. Il ne méritait pas la liberté. En analysant les textes, ça c'est plutôt moi qui le pense. Je pense qu'ils sont demandés à ce que Barabbas soit libéré parce qu'ils voulaient quelqu'un qui lutte contre les peuples, contre les Romains, qui les fasse sortir. Donc quelqu'un qui tue des gens, qui fait du mal au peuple romain, au gouvernement romain, voilà, c'est quelque chose qu'ils voulaient. Alors quelqu'un qui disait non, il faut aimer ton prochain, il faut le pardonner, peut-être à ce moment-là, ça ne leur touchait pas. Donc ils sont refusés, c'est une des raisons pour lesquelles ils sont refusés, que Jésus soit libéré. Quand je contemple cette scène, je suis complètement émerveillé que le Seigneur n'ait rien dit. Je suis vraiment, vraiment surpris. Et je le rends grâce qu'il ait fait ça. Parce que s'il avait parlé, s'il avait dit quelque chose, s'il avait été libéré, aujourd'hui, on ne serait pas là. On serait complètement perdu. Et on peut, quand on lit le passage, on peut se dire également, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces choses arrivent? Pourquoi tu les permets, etc. C'est injuste. Même quand on regarde n'importe quel film de la mort de Jésus, la crucifixion de Jésus, on dit, mais pourquoi tu as permis ça? C'est extrêmement fort, en fait. On est... voilà, ça fait très, très mal. Et on voit là le plan de Dieu qui s'accomplissait. Le plan de Dieu pour notre pardon. Et c'est extrêmement fort ce que le Seigneur il a fait. Parce qu'il a mis... il a demandé tout ce que l'on devait faire pour être libre, pour déclarer, pour avoir le salut. Et il savait en fait qu'on n'allait pas le faire. Et lui-même, il s'est rendu. Il est allé jusqu'à la croix afin que nous soyons pardonnés. Et ça n'a pas de prix en fait. C'est quelque chose, je me dis tout le temps, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Que je dois simplement accepter et vivre avec la joie. Et l'amour et d'accepter ces sacrifices du Seigneur sur la croix qui nous fait, qui nous ramène à chaque fois à nous dire, voilà Seigneur, pardon, merci pour tout ce que tu as fait sur la croix. Merci parce que tu étais, parce que grâce à ces sacrifices, aujourd'hui on est pardonné, on peut se réunir ce matin ici, on peut s'approcher de toi et on sait que peu importe ce qui arrive, on sera sauvé. On a le salut en ton nom. Jésus ne s'est pas défendu. Et ça, gloire à Dieu, il ne l'a pas fait. Il y a beaucoup de prophéties qui se sont accomplies grâce à pendant cette période. Il a dit, il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe 53, 7. Les gens également, ils ont dit, les peuples d'Israël, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Matthieu 27. C'est extrêmement fort ce qu'ils ont dit, hein. Je me pose la question ces paroles n'ont eu un impact en fait sur toute l'histoire, ce qu'Israël a vécu pendant des siècles et des siècles. Mais bon, ça, encore une fois, c'est moi qui les pense. Ce n'est pas une vérité. Voilà, c'est juste mon point de vue. Pilate, il agit avec cynisme. Il dit il a voulu se laver les mains. Matthieu 27, 24, en disant voilà, je me lave les mains. C'est votre responsabilité. Vous décidez de le rendre coupable. Il va aller sur la croix, mais je suis libre de toute culpabilité. Non, non, non. Il est un leader. Il avait la responsabilité de prendre les décisions justes. Il n'a pas pris les bonnes décisions. Donc, il est coupable de son jugement. Après, quand on regarde les châtiments et l'humiliation de Jésus, quand il a été fouetté, flagellé par les soldats romains, c'est extrêmement fort en fait. Ça me rend la chair de poule de penser à tout ce que le Seigneur a vécu. C'était une scène très très difficile, très sombre, guidée par le mal, par la méchanceté humaine. Et c'est extrêmement difficile de comprendre. Quand j'étais en train d'analyser le passage, je voyais en fait que l'instrument utilisé pour les frapper, était connu sur le nom de flagellum. Et en fait, c'était un fouet court composé de plusieurs lanières de cuir dont les extrémités étaient munies de petites pièces métalliques ou des fragments d'os. Et dans ce type de flagellum, il y avait des versions qui incluaient un crochet appelé escorpion, capable de provoquer des blessures profondes. Les pièces de métal causaient des contusions sévères et les fragments d'os entaillaient la peau. Et ces châtiments pouvaient entraîner une perte de sang, une perte importante de sang, un état de choc, des blessures profondes, l'incapacité de rester debout et parfois même la mort. Et face à tout cela, le Seigneur n'a rien dit. Il est resté muet. Il ne s'est pas défendu. Il a même prié, on le verra plus tard dans les prochains chapitres, qu'il a même prié pour les gens qui étaient en train de le punir. Il a choisi de suivre, de vivre ces châtiments sans prononcer un mot. Il a accepté de porter cette souffrance par amour. Et on pourrait se dire que comme un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche. Une nouvelle prophétie qui est accomplie dans ces passages. Mais nous devons comprendre que tout cela était nécessaire. La volonté du Père était à l'œuvre et le plan de Dieu pour notre salut était en train de s'accomplir. Rien n'échappe au dessein divin. Ce que les hommes faisaient par haine, Dieu l'utilisait pour accomplir sa miséricorde. Ce que les soldats infligeaient par cruauté, le Père le permettait par amour. Derrière l'injustice apparente, il y avait un projet éternel. Celui de racheter l'humanité. Celui de racheter toutes les personnes qui ont déposé leur confiance, qui déposent leur confiance en Jésus et qui l'acceptent comme leur roi et leur sauveur. Il a pris la place d'un serviteur souffrant. J'ai entendu une prédication, une fois, un pasteur qui disait que ces passages devraient nous amener à réfléchir. Lorsque nous pensons qu'un péché est petit ou insignifiant, on doit analyser que même ces péchés, il a créé causé ces choses en Jésus. Donc le prix qu'il a payé pour nous est énorme. Il a pris notre place, il a porter notre culpabilité et il a payé le prix que nous ne pouvions pas payer. Amen. Prions. Je vais poser une question. Est-ce que tout le monde ici a accepté Jésus dans son cœur? Il y a quelqu'un qui n'est pas accepté Jésus dans son cœur? Il y a quelqu'un qui voudrait accepter Jésus dans son cœur? Le reconnaître comme son sauveur. Donc j'ai prié, on s'est réjoui pour vous, et j'ai prié pour que le Seigneur vous guide, vous protège, vous fasse marcher dans les bons chemins, et vous montre à quel point il vous aime. Seigneur, nous prions pour que tu nous guides, pour que tu nous protèges, pour que tu nous permettes de vivre dans ta vérité, comprendre le sacrifice que tu as payé, Seigneur, tout ce que tu as vécu dans la croix, sur la croix, Seigneur, et tout ce que tu as fait par amour, Seigneur, parce que tu as donné tout par amour. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Amen.